celui qui cueille une fleur dérange une étoile.
Et c'est une idée merveilleuse, magnifique peut-être.
Cette idée que, à l'intérieur de notre système cosmique, tout agit sur tout.
Révolution écologique, proposée par Dominique Rousset avec la Fondation Nicolas Hulot.
Comme chaque samedi à 14h et jusqu'au 31 août, poursuite d'une réflexion engagée avec des experts de toutes disciplines sur la place de l'écologie dans notre monde contemporain. Six conversations autour de six grands thèmes introduites par Nicolas Hulot. Après écologie et nature, écologie et science, c'était la semaine dernière, aujourd'hui écologie et capitalisme. Écologie, crise écologique, crise économique, vous ne séparez pas ces deux termes, Nicolas Hulot.
Non, on a tenté de le faire pendant des années. D'ailleurs, on a occulté cela. Et si aujourd'hui, on ne revisite pas de manière apaisée, mais radicale et fondamentale, justement, les fondamentaux de notre modèle économique, on ne fera qu'être dans le traitement des symptômes, mais pas dans le traitement des causes. Et donc, c'est vrai que nous sommes condamnés, encore une fois, à remettre à plat les choses. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté, puisque jusqu'à présent, le modèle dominant, en tout cas de ces dernières décennies, c'est un modèle effectivement qui repose sur une croissance à la fois exponentielle économique, mais accompagnée à parité d'une croissance exponentielle des flux énergétiques et des flux des matières premières. Bon, je ne sais plus quel est l'architecte américain qui avait dit penser qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini, il faut être soit un économiste, soit un fou. Bon, voilà. Donc chacun peut comprendre que ça n'est pas tenable. Mais à partir de là, une fois qu'on a dit ça, on voit que c'est compliqué, puisque notre modèle repose sur une exploitation croissante, en permanente, des ressources naturelles. Sauf que ce que l'on découvre brutalement au XXIe siècle, c'est qu'on est passé d'une période d'abondance à une période de rareté. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de ne pas basculer dans l'étape d'après, de la rareté à la pénurie. Parce que la rareté, on peut la gérer. La pénurie, démocratiquement, c'est très dangereux. On voit bien combien en période d'abondance sur un certain nombre de matières premières, on a quand même trouvé de bonnes occasions de faire la guerre, pour faire très court. En période de rareté, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, sur des matières premières comme les ressources halieutiques, l'eau, mais même des métaux ou des terres rares sur lesquelles repose toute notre industrie, c'est très compliqué. Donc on va être obligé, évidemment, de passer d'urgence dans une forme de sobriété. Il y a, à mon avis, un modèle qui va être une sorte de planche de salut entre justement le modèle capitalistique qui, un modèle quand même qui gâche beaucoup, parce que il faut savoir que dans ce qu'on appelle l'économie linéaire, pour fabriquer n'importe quel produit de consommation, eh bien, en finale, c'est 96% des matières premières ou de l'énergie qu'on a utilisées qui ne sert à rien et il ne reste que 4%. Donc il y a un modèle, notamment ce qu'on appelle l'économie circulaire, qui pour moi est la planche de salut entre la croissance et la décroissance.
Tout ce qui croit finit par s'écrouler sous son propre poids, dit Serge Moscovici. Il l'a dit il y a déjà un grand nombre d'années, citation pour citation. C'est effectivement de cela qu'il va être question à présent. Après deux autres émissions, c'est notre troisième conversation. Nous sommes partis d'écologie et nature. Nous avons parlé d'écologie et science. Et nous arrivons assez logiquement à écologie et capitalisme.
C'est presque un... Tout dépend ce qu'on met derrière le mot capitalisme. Parce que je pourrais dire que c'est presque un oxymore. Mais ce n'est pas le capitalisme en soi que je remets en cause, c'est les excès. C'est-à-dire qu'un capitalisme sans régulation, un capitalisme qui peut spéculer sur des matières premières. Je pense qu'un des premiers principes que l'on devrait adopter, c'est que on doit soustraire à la spéculation un certain nombre de biens communs, et notamment les ressources alimentaires et les matières premières. On a besoin, pour rentrer dans ce qu'on appelle la transition écologique et la transition énergétique, on a besoin de financements importants pour investir à la fois dans la recherche, mais encore une fois, aussi à la fois dans un certain nombre d'équipements en matière d'efficacité énergétique et de nouvelles énergies. On bute aujourd'hui sur un problème de moyens, parce que tous les budgets des États, et notamment des États européens, sont contraints, notamment par la dette. Pourquoi ? Et c'est pour ça, c'est en cela que tout est lié. C'est parce qu'il y a une forme de capitalisme, hein, encore une fois, ce n'est pas l'ensemble du capitalisme que je remets en cause, qui s'exonère d'un certain nombre de règles communes. Et notamment, un certain nombre de pratiques dans ce qu'on appelle l'industrie de la finance, qui ont fait en sorte, en toute immoralité, mais en toute légalité, de ne pas passer par la case solidarité. C'est ce qui fait que les États ont aussi peu de marge de manœuvre. C'est ce capitalisme-là. Je veux dire, le temps est révolu, compte tenu des contraintes sociales et des contraintes écologiques, où un pan entier de l'économie pouvait s'affranchir de la solidarité.
Nous avons invité donc deux experts pour débattre de cette question. L'un et l'autre se sont très largement exprimés sur le sujet, mais ils sont peut-être d'opinions différentes. C'est ce qu'on va découvrir en tout cas. Jean Gadret, professeur émérite d'économie à l'Université de Lille. Alain Grandjean, économiste, et il est fondateur associé de Carbone 4. Il faut revenir quand même sur la question à la fois du pic pétrolier qui a bien eu lieu et puis des questions qui sans doute vont être débattues entre eux, les flux de matière et d'énergie qu'il faut bien faire décroître. D'autres thèmes encore, et cette question du facteur 4, je le rappelle, hein, l'engagement de la France qui a été validé au Grenelle de l'environnement, vous étiez présent évidemment, au combien, de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre et de les ramener au niveau de 90 d'ici 2050. On n'y est pas et on risque bien de ne pas y être, hein, il faut le dire.
Compliqué. Si on tient compte d'une augmentation probable du PIB pour notre simple pays, ça peut équivaloir à une division par 12. Donc c'est énorme. Ça ne se fera pas, encore une fois, justement, avec un modèle identique, avec, comme on dit couramment, business as usual. Ça va se faire, effectivement, avec des changements profonds dans le modèle économique. Bon, au passage, nous avons gardé la trajectoire de Kyoto. On s'y est engagé. Ce n'est pas le cas de tous les pays, d'où l'enjeu, d'ailleurs. D'ailleurs, pour ceux qui l'ignorent, la France va accueillir normalement en 2015 à Paris la conférence climat. Et c'est un peu, je dirais, le rendez-vous de tous les dangers, mais de tous les espoirs.
Merci Nicolas Hulot, c'est donc notre troisième conversation écologie et capitalisme avec Jean Gadret et Alain Grandjean. Et en sous-titre, de quoi réfléchir, l'avenir ne nous rendra pas le passé. Jean Gadret, Alain Grandjean, j'ai envie de commencer par une citation de quelqu'un que nous sommes plusieurs à admirer, qui en tout cas est très pionnier dans nos débats autour de l'écologie. Il a écrit « Écologie et politique » en 1978, il s'agit d'André Gors, et je vous lis ce court texte que vous devez connaître. « La lutte écologique n'est pas une fin en soi, c'est une étape, elle peut créer des difficultés au capitalisme et l'obliger à changer. Mais quand après avoir longtemps résisté par la force et la ruse, il cédera finalement, parce que l'impasse écologique sera devenue inéluctable, il intégrera cette contrainte comme il en a intégré tant d'autres. C'est pourquoi il faut poser la question franchement, que voulons-nous ? Un capitalisme qui s'accommode ou une révolution économique, on peut même ajouter sociale et culturelle ? C'est bien toute la question dont je souhaiterais vous voir discuter aujourd'hui. Peut-on surmonter la crise écologique dans le cadre du capitalisme ? Jean Gadret.
Alors je connaissais cette citation de Gors, et d'ailleurs c'est une idée qu'il développait dès le début des années 1970. En quelque sorte, il était un précurseur de ceux qui annonçaient un capitalisme vert, c'est-à-dire un capitalisme capable de prendre en compte les contraintes écologiques. Et pour ma part, en tant qu'admirateur de Gors, je crois qu'aujourd'hui nous devons réexaminer cette idée et peut-être se poser des questions, c'est l'objet de cette émission, sur la capacité du capitalisme à réellement prendre en compte l'ensemble des contraintes écologiques telles que nous les connaissons aujourd'hui et que Gors ne les connaissait pas toutes.
Oui, parce que les années 70, nous n'étions pas là, si on peut dire.
Nous n'en étions pas là, et en particulier, le type de dommages écologiques auxquels Gors faisait allusion, c'était essentiellement les pollutions. Voilà, c'était le thème des pollutions qui était à l'heure. Alors certes, on avait eu le rapport du Club de Rome, mais en particulier, le péril climatique n'était pas à l'époque, à l'ordre du jour des consciences des philosophes. Oui. Et voilà, la question qui se pose aujourd'hui de notre côté, c'est que peut faire le capitalisme face à la crise climatique, face au pic du pétrole, face à la perte de la biodiversité, autant de thèmes que Gorce n'abordait pas ou peu.
On n'était pas encore non plus sur le pic du pétrole, c'est
oui,
vrai, Alain Grandjean.
Oui, non, il y a quelque chose de très marquant, c'est que la Chine est devenue une menace écologique mondiale et lourde depuis qu'elle est devenue capitaliste. Pour autant, dans les souvenirs que j'en ai, quand dans le début des années 80, on essayait de comprendre l'impact écologique des systèmes, notamment en Russie et en Chine, c'était pas très brillant. C'est-à-dire que les pollutions locales étaient extravagantes, l'opacité complète des dispositifs politiques de l'époque était complètement contraire à la nécessité de transparence, la nécessité de clairvoyance. Et j'ai le basculement des sujets entre des pollutions locales et des pollutions ou des impacts macroscopiques mondiaux, planétaires, est très aidé par l'activité scientifique et par des dispositifs où la communication, l'explication, la controverse sont fondamentales. C'est pour autant pas des qualités du capitalisme. Et effectivement, aujourd'hui, on est bien dans cette difficulté majeure qui est le système capitaliste semble être l'ennemi absolu de la nature.
Mais avec une difficulté supplémentaire, c'est de définir le capitalisme. Au fond, je ne suis même pas sûr que vous soyez d'accord si on vous demande.
C'est un sujet d'oral
de
Sciences
Po. À quoi il correspond, Jean Gadret.
Je ne suis pas très doué pour ce genre d'exercice, mais parce que la définition du capitalisme peut être à la fois économique, sociologique, politique. Elle fait référence dans certains cas à la propriété privée des moyens de production, dans d'autres cas à la mise en valeur d'un capital avancé, c'est-à-dire au profit attendu du capital. Et moi, je pense qu'il faut le prendre de façon pragmatique dans cette discussion, le capitalisme. Il faut savoir de quelles ressources il a besoin pour se développer, comment il en organise la combinaison pour produire et comment il suscite des désirs ou des besoins. Il me semble qu'à partir de là, même sans définition sur laquelle on pourrait s'entendre, on peut avancer.
Je ne suis pas non plus partisan de conversations trop longues sur la nature exacte du capitalisme, tellement les formes, les formats et la capacité d'adaptation de ce qu'on appelle le capitalisme de manière rapide sont variés, divers, etc. Ce qui est sûr pour moi, c'est deux choses. C'est d'une part le format, la forme actuelle du capitalisme qui est grossièrement très financiarisé et très libéral sous des apparences un peu variées est un problème en soi. Ça, je suis assez persuadé. Et je suis assez persuadé d'un autre point, c'est que la crise écologique est tellement violente, tellement importante et tellement à court terme que je suis très sceptique à l'idée qu'il faille réformer l'ensemble des structures qu'on appelle capitalistes, supposer qu'on arrive à savoir ce que c'est, pour résoudre ces fameuses crises. Je pense qu'on y a un petit problème de timing.
Oui, tellement violente et tellement sous-estimée par le capitalisme, justement, qui ne la voit pas.
Alors oui...
J'en aimerais.
Moi, il me semble que le rapport que le capitalisme a entretenu dans l'histoire avec la nature, avec l'écologie, avec les grands enjeux qui nous amènent aujourd'hui à une crise écologique majeure, peuvent être approchés en se disant que le capitalisme s'est développé dans l'histoire, s'est historiquement construit avec comme l'une de ses bases la destruction et la privatisation de biens naturels autrefois communs, c'est-à-dire gérer en propriété commune des terres, des forêts, de l'eau, des ressources, des sources d'énergie, etc. Et non seulement ça continue, mais ça a plutôt l'air de s'amplifier dans la période actuelle avec, comme exemple, la conquête des pôles, les gaz de schiste, les forages en eau profonde, les méga-barrages, la privatisation des semences et du vivant, et un phénomène qui devient massif, qui est l'accaparement des terres, non seulement dans le monde, mais même en Europe, comme vient de le montrer un rapport récent. Et pour ma part, je vois la sortie de la crise écologique comme la reprise en main de ces communs naturels, vitaux, pour l'humanité, pour la satisfaction de ses besoins. Autrement dit, on aura besoin de mettre à l'écart une partie de ce qu'on appelle le capitalisme pour reprendre un contrôle coopératif de ces biens naturels, communs, privatisés. Et je pense que ce sera mon argument principal dans ce débat, mais il faudra bien entendu le développer.
Il faudra le développer, Alain Grandjean. Là.
Et un point sur la question de pourquoi le capitalisme a détruit et ne tient pas compte des ressources naturelles. Pour moi, c'est assez clair. Je ne suis pas complètement convaincu que ce soit lié au mot capitalisme, mais c'est clairement lié à tous les instruments d'évaluation et de mesure dont disposent les entreprises et les États dans le système capitaliste actuel. Si vous regardez une comptabilité d'entreprise, et si vous êtes chef d'entreprise, ce qui m'est arrivé et qui m'arrive encore aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce qui compte dans votre compte d'exploitation et ce qui compte dans votre bilan, c'est tout sauf les éléments de nature. Tout sauf les éléments de nature à l'actif, c'est-à-dire vous valorisez des éléments de nature, vous en profitez, mais ils ne sont pas dans votre bilan en tant que tel. Vous les détruisez et ces destructions naturelles ne sont pas à votre passif et ils ne sont pas en perte. Vous n'êtes pas chargé de provisionner dans votre bilan la destruction des écosystèmes. Vous n'êtes pas chargé de provisionner dans votre bilan l'impact du changement climatique, même si vous en êtes un acteur important. Donc là, il y a vraiment un problème de fond, c'est que la nature n'est pas comptée dans nos systèmes comptables et de gestion, et donc elle ne compte pas dans les décisions. Donc le génie, à mon avis, du capitalisme, si je peux me permettre cette phrase, c'est d'être un dispositif qui motive, qui incite, qui permet de prendre des décisions avec un système de décision relativement simple. Et le contraire inverse du génie, oui, c'est que ces décisions ne tiennent pas compte de quelque chose qui est totalement déterminant, qui est l'ensemble des écosystèmes et de la biosphère.
Oui, en tant que quelqu'un qui s'intéresse depuis longtemps aux indicateurs, je ne peux pas aller contre cet argument d'Alain Granger en disant « mais la façon dont on compte le progrès, qu'il s'agisse de celui des entreprises ou de celui d'une société, influe sur les décisions qui sont prises ». Simplement, j'ajouterais ceci, c'est que le type de comptabilité d'entreprise avec ses lacunes qui existent à chaque époque est très largement fonction du type de pouvoir qui s'exerce au sommet de l'entreprise. Qui dirige, qui prend les grandes décisions et qui, du coup, exige tel ou tel type de comptabilité. C'est ainsi qu'on a vu fleurir les comptes fondés sur la valeur pour l'actionnaire comme étant une priorité absolue, à la même époque où les actionnaires ont repris le pouvoir, c'est-à-dire après la révolution conservatrice américaine qui a ensuite traversé l'Atlantique. Donc, au fond, quand on réfléchit au capitalisme des Trente Glorieuses, on se dit qu'il avait des outils différents, qu'il était beaucoup plus stable, qu'il y avait les accords de Bretton Woods, c'est-à-dire une finance non dérégulée, qu'il y avait des banques publiques, une forte présence de l'État et des syndicats dans l'économie, une planification, des emplois plus stables dans l'industrie, etc. Et pourtant, dans le même temps, il a fonctionné sur la base d'une surexploitation sauvage
de la nature,
des ressources naturelles, en particulier dans ce qu'on appelait alors le tiers-monde. Il a industrialisé l'agriculture et il a fait de la forte croissance de cette époque son principal argument de vente auprès de l'opinion. Eh bien, cela est-il encore possible ? Évidemment non.
Oui, mais pardonnez-moi, Jean Gadret, mais je crois que c'est vous-même d'ailleurs qui vous êtes fait également cette réflexion. Est-ce que ce que vous dites là du capitalisme, de sa surexploitation un peu éhontée de la nature, ce que vous dites tous les deux, n'est pas tout aussi vrai des économies planifiées ?
C'est
celles qui ont précédé la chute du mur de Berlin. Donc, elle n'est pas là la différence entre le capitalisme et autre chose.
Non, bien sûr, ce qu'il y a de commun au capitalisme et à ses économies planifiées, c'est un productivisme éhonté et une indifférence totale aux enjeux écologiques. On est bien d'accord sur ce point. Simplement, le capitalisme a permis de mener une exploitation au carré. Comme l'a dit très bien Alain Grandjean tout à l'heure, c'est quand la Chine est devenue capitaliste qu'elle s'est mise à connaître des taux de croissance économique et des taux de croissance de sa pollution, qui étaient déjà très élevés auparavant, sans commune mesure.
Le malheur pour le capitalisme,
Alain Grandjean.
Le malheur pour la nature du capitalisme, c'est son efficacité. C'est tout à fait clair.
Voilà, c'est son obsession des gains de productivité. Or, les gains de productivité sont a priori une très bonne chose. D'ailleurs, André Gors le disait. Il comptait sur les gains de productivité pour libérer du temps afin que les personnes se consacrent à des activités autonomes et non pas aux activités hétéronomes de leur statut de salarié. Simplement, ce qu'il ne voyait pas et ce que ne voit toujours pas aujourd'hui bien de mes amis, nombre de mes amis économistes, qu'ils soient atterrés ou autres, c'est que les gains de productivité, ça libère en effet du travail, mais ça utilise dans le même temps, pour produire toujours plus avec moins de travail, des ressources naturelles, de l'énergie, et qu'ils ne font pas le bilan carbone et le bilan matière de ces fameux gains de productivité. Au fond, les gains de productivité records que nous avons connus au cours des Trente Glorieuses et qu'on a connus ensuite dans les Trente Glorieuses de la Chine ont été des périodes records du point de vue de la pression anthropique sur la nature.
je voudrais juste un tout petit complément pour aller un peu plus loin sur cette histoire d'instrumentation. Donc le système capitaliste actuel utilise des instruments de navigation tant pour les entreprises que pour le secteur public, dont on voit bien qu'elles ne tiennent absolument pas compte de tous les sujets dont on vient de parler, donc les impacts positifs et négatifs sur la nature. C'est accru et aggravé par la financiarisation récente à l'échelle de l'histoire de l'humanité, hein, c'est-à-dire les 40 dernières années. La financiarisation, elle accroît encore le biais destructif de l'instrument par le calcul de l'actualisation. Tout le monde sait que les marchés financiers demandent des rentabilités sur capitaux propres de plus en plus élevées. Donc, petit 1, on compte la notion de rentabilité, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire sans tenir aucun compte des effets positifs et négatifs sur la nature. Mais en plus, quand on est dans une logique de très très court terme, on écrase complètement les quelques effets qu'on arrive à choper un peu indirectement dans l'avenir. Donc le capitalisme financiarisé, qui est la version actuelle du capitalisme, a un effet encore plus destructeur que la version précédente, parce qu'il s'occupe très exclusivement du présent.
Oui, il va encore plus loin.
Et donc il ne tient compte aucunement des effets de l'activité économique sur un moyen long terme.
Oui. Il est complètement détaché de cette réalité-là, voilà, de toute façon, comme ça a été longuement montré. D'accord avec Alain Grandjean, Jean Gadret.
Oui, mais en prolongement, mais bien entendu, je suis entièrement d'accord. J'évoquais tout à l'heure l'une des raisons de mon capitalo-scepticisme, comme d'autres sont climato-sceptiques. Pas les mêmes, non. Qui était le fait que le capitalisme et plus généralement tous les systèmes de production productiviste étaient indifférents à un grand nombre de biens communs naturels. Mais en réalité, il est tout aussi indifférent d'une part à un grand nombre de biens communs sociaux ou de droits humains fondamentaux et à ce bien commun essentiel parce que d'une certaine façon c'est la circulation sanguine de l'économie qu'est la monnaie et que sont la monnaie et le crédit. Et ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années, ça a été la privatisation de ce qui était autrefois considéré comme un bien commun, la monnaie et le crédit, laissant la finance devenue ainsi plus libre d'agir, tous les outils d'une spéculation permanente sur tout. Autrement dit, en effet, la priorité des priorités, c'est peut-être la mesure la plus crédible à court terme, parce que beaucoup d'acteurs, quelle que soit leur position vis-à-vis du capitalisme, sceptique ou pas, y compris des chefs d'entreprise, y compris des gens qui ne font pas partie de la famille de la gauche anticapitaliste, etc., ou des écolos, se disent « mais cette financiarisation devient un obstacle au fonctionnement de l'économie réelle ». Voilà donc pourquoi nous nous rejoignons, comme souvent d'ailleurs, mais notamment sur cette question de la reprise en main, de la finance.
Juste un mot, Alain Grandjean, quand même, sur la prise de conscience. Vous connaissez bien le monde de l'entreprise, hein, vous nous l'avez dit, et vous le fréquentez beaucoup. Comment se fait-il cette prise de conscience, parce que Jean Gadret nous explique bien qu'au fond, on n'a pas forcément intérêt à laisser les choses aller en l'état, n'est pas davantage été faite par les chefs d'entreprise, tout simplement,
sur ces
enjeux écologiques énormes, et notamment sur la question de l'énergie que vous travaillez.
Alors,
beaucoup.
Moi, je vois deux choses. C'est que d'une part, on est sur des questions un peu anthropologiques, et faire bouger des représentations, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire humaine en 3 minutes. Là, on a un petit problème de vitesse, c'est qu'on demande à des centaines de millions de personnes, voire des milliards, à se représenter les choses d'une manière très différente de la représentation commune qu'ils en ont. Donc je pense qu'il y a un problème de fond, qui est capitalisme, pas capitalisme, c'est pas la question, c'est un problème culturel. Ça c'est petit 1. Petit 2, on a eu, alors en Europe de l'Ouest c'est complètement évident, un début de prise de conscience sur les enjeux de climat, mais même un peu plus généralement, dans le début de l'année, de la décennie 2000, qui a été handicapé, le prolongement de cette prise de conscience a été handicapé par la crise économique extrêmement brutale qui est provenue de la crise des subprimes américaines et qui a en plus été aggravée par la reprise du discours néolibéral qui nous explique que cette crise n'est pas du tout liée à la crise des subprimes, mais liée à la crise des dettes publiques. Donc ce fatras, si je peux me permettre, crée des perturbations à n'en plus finir. Les chefs d'entreprise, les dirigeants sont aujourd'hui dans une crise économique et donc priorité au court terme. Et donc si je prends un tout petit peu de recul, pour moi, le capitalisme, dans sa version financiarisée actuelle, pour éviter les grands débats théoriques sur le capitalisme, il a deux inconvénients. C'est qu'en période de crise, c'est le court terme qui l'emporte, parce qu'il faut sauver les emplois, il faut sauver l'entreprise. Et quand on n'est pas en situation de crise, de toute façon, par le biais du taux d'actualisation, le court terme l'emporte encore.
Oui, mais même dans cette situation, on se dit crise économique, crise écologique, on aurait pu penser un peu plus tôt à associer les deux, Jean Gadret.
Oui, alors on sait qui
on. On sait qui.
Voilà.
On sait qui, vous avez raison.
Parce que, bien évidemment, du côté, par exemple, des grandes entreprises, mais on pourrait aussi le dire des PME, il ne manque pas au sein des entreprises de personnes, de salariés, de cadres qui ont pris conscience qu'il y avait une jonction à faire. En réalité, la difficulté pour moi, c'est que ce ne sont pas eux qui exercent le pouvoir. Nous sommes dans un capitalisme actionnarial. Ce sont les grands actionnaires de contrôle qui exercent l'essentiel du pouvoir. Sans doute, certains d'entre eux peuvent-ils bouger. C'est d'ailleurs ce qui se produit. Mais pour l'instant, on est encore dans une stratégie dite de capitalisme vert qui revient à étendre, à continuer de tenter d'étendre la maîtrise que les grandes entreprises, les multinationales, peuvent avoir sur des actifs naturels, comme elles les appellent. On en est même à des tentatives avec ce capitalisme vert de financiarisation de la nature, qui sont en plein développement actuellement, y compris avec des produits dérivés qui ressemblent très fort aux subprimes. Voilà, donc c'est aussi un rapport de pouvoir qui peut expliquer ce frein à la prise de conscience.
Alors, cela étant, je ne suis pas du tout pessimiste. C'est-à-dire que je crois d'une part, que les dérèglements, notamment climatiques, mais pas que, les difficultés que connaît l'agriculture font que des sujets qui étaient peu sensibles le deviennent. Je prends juste un exemple illustratif. Au moment du Grenelle de l'environnement, il était extrêmement difficile de discuter avec les représentants de la profession agricole sur la question des produits phytosanitaires. En moins de 5 ans, hein, ce qui est quand même un cinquième de génération, qu'est-ce qu'on a eu comme effet ? Ben, des familles d'agriculteurs voient des proches décédés de cancer qui sont liés à un usage peu précautionneux des phytosanitaires. La discussion est un peu moins fermée qu'elle ne l'était à l'époque. Donc malheureusement, parce que je souhaite absolument pas que ce soit les problèmes qui nous amènent les solutions, donc c'est un peu malheureux, mais c'est quand même un petit peu comme ça. Oui. On voit bouger les consciences. Oui. Donc toute la question maintenant, c'est une course de vitesse entre comment peut-on faire évoluer les grands systèmes, et notamment ce que vient de dire Jean, c'est-à-dire comment faire en sorte de réguler la finance, pour appeler un chat, et réduire le pouvoir du court terme, assez rapidement, pour que les tendances destructives de ces mécanismes court-termistes l'emportent sur...
Quelqu'un, qui avait, là je remonte un peu plus haut encore qu'André Gorz, qui avait déjà vu ce rapport de destruction... à la fois sociale et écologique, eh bien c'est Karl Marx dans Le Capital. Et là, je pense que vous deux connaissez cette citation, paraît-il assez fameuse. Marx, sur la production capitaliste, qui, selon lui, la production capitaliste, donc, ne développe la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travailleur. C'est une pensée écologique, ça.
Oui, mais Jean Gadret. À bien des égards, Marx n'était pas que productiviste, d'autant que ce sont bien souvent ses successeurs qui l'ont transformé en industrialiste productiviste, voire en système autoritaire. On a des citations tout à fait formidables de son ami Engels, qui, en analysant la déforestation en cours, se prononçait pour la préservation de ces ressources naturelles au nom de l'humanité et pas du tout au nom de tel ou tel système économique. Et on a même, j'en ai placé récemment sur mon blog, une très belle citation de Ronsard qui s'intéresse dans un de ses sonnets à la forêt de Gâtine en train d'être surexploitée et détruite par les seigneurs de l'époque.
On y reviendra sûrement sur le capitalisme et science à propos de l'histoire, notamment du capitalisme. Et c'est vrai que c'est un grand débat. Est-ce qu'on a protégé la nature dans les siècles passés ou pas ?
Un point de remarque qui est dans la phrase de Marx, il n'est pas possible de faire autrement. Aujourd'hui se développe... Alors, est-ce que c'est une mode ? Est-ce que c'est une notion de fond ? Est-ce que c'est un avenir du capitalisme ? Je ne sais pas, mais se développent des modèles d'économie circulaire. Si les systèmes de prix et de coûts sont adaptés, les entrepreneurs peuvent être amenés à se dire, tiens, c'est intéressant d'utiliser des matériaux recyclés, c'est intéressant de faire
en sorte... on va la décrire, l'économie circulaire, hein, aujourd'hui telle qu'elle apparaît, c'est effectivement de permettre une longue vie, une vie éternelle quasiment des produits.
En gros, les limitations de la nature. Donc si on simplifie beaucoup, dans la nature, les déchets des uns sont les ressources des autres. Il n'y a pas de déchets qui ne soient pas recyclables par des mécanismes extrêmement complexes. Le mécanisme économique du capitalisme actuel, ça fait déjà très très longtemps qu'il est comme ça, c'est un système minier. C'est-à-dire que je fais un trou, j'exploite, et ensuite je fais un tas de déchets. L'idée de l'économie circulaire, c'est d'essayer d'imiter les mécanismes naturels pour faire en sorte qu'on arrive à organiser le recyclage de ces déchets dans les intrants de production. C'est aujourd'hui un peu natif, c'est aujourd'hui, on ne trouve pas 1500 exemples, mais c'est quelque chose auquel les entrepreneurs et les entreprises peuvent être sensibles. Donc ça veut dire que ce n'est pas une fatalité absolue de ne pas faire ça.
Merci pour cet aspect positif, Jean Gadret.
Je peux éventuellement compléter et peut-être nuancer le côté positif des choses, parce que Alain Grandjean disait tout à l'heure qu'il était plutôt optimiste que pessimiste. Et à ce genre de questions, Edgar Morin a l'habitude de répondre « Je suis à la fois optimiste et pessimiste. Justement, il faut aller au-delà de la pensée dualiste et savoir penser plus complexe. » Et je crois que je suis moi aussi à la fois optimiste et pessimiste, bien que la période actuelle n'incite pas forcément à un très grand optimisme. Alors sur l'économie circulaire, l'économie de fonctionnalité, etc., qui est mise en avant, entre autres par des écologistes ingénieurs, mais pas seulement, j'ai deux questions. La première, c'est que tout ça exige quand même de l'énergie. Et que la nécessité de la sobriété énergétique va devoir s'imposer, nous avons besoin de faire non seulement des bilans matières, mais aussi des bilans carbone et autres. Et puis la deuxième, qui est la plus importante à mes yeux, c'est que ça ne nous dit rien de l'éventuel effet rebond. L'effet rebond étant l'idée qu'après tout, puisqu'on est plus économe en ressources et éventuellement en énergie, on pourrait se permettre de consommer toujours plus. Ce qui pose la grande question et la raison principale pour laquelle je suis capitalo-sceptique, c'est la poursuite de la croissance à perpétuité.
C'est-à-dire de rechercher les solutions pour pouvoir poursuivre la croissance. Là, vous n'êtes plus d'accord.
On est totalement d'accord.
Sur cette question de l'énergie, c'est très important.
Pas que l'énergie. Très globalement, l'idée simple que le recyclage résoudrait les problèmes en période de croissance continue, c'est une idée fausse, tout simplement parce qu'on ne recycle jamais 100%. Et qu'une croissance exponentielle finit toujours par gagner la partie. Donc ça démontre mathématiquement, on va pas le faire ici, c'est pas la peine, il y a des travaux très 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 clairs qui le démontrent. Donc je ne discute pas 5 minutes de ce que vient de dire Jean Gadret, c'est tout à fait clair que c'est pas une solution unique et magique. Deuxièmement, je discute pas plus, et même encore, j'en discute encore moins, du fait que le recyclage, l'économie circulaire a besoin d'énergie. Donc, je discute toujours pas plus du fait que si.
Et que l'énergie devient plus chère.
Que l'énergie devient plus chère.
Avec une énergie à bas prix, quand même.
On est désespérément dans une planète finie, et ce n'est pas la découverte des gaz de schiste aux États-Unis qui rend la planète infinie. Donc, de toute façon, ça nous fait peut-être gagner 1 ou 2 ans, ça on pourra en parler pour savoir de combien de temps ça nous fait gagner, mais ça résout pas du tout le problème. Alors, donc, je citais l'économie circulaire juste pour dire que la fatalité, le fatum, on ne peut pas avoir une économie d'entreprise privée qui ne soit pas surexploitatrice des ressources naturelles, je pense que ça, c'est un argument qui est faux de fait. Je n'ai pas dit réciproquement que l'économie circulaire était la solution magique qui s'imposait. Évidemment que dans ce que je pense qu'il va falloir faire dans les très prochain, enfin qu'il faudrait faire maintenant en fait, hein. Une fois qu'on a dit, qu'on a évoqué la régulation du capitalisme financier, juste après ou justement pendant, avant, en parallèle, il y a tout ce qui concerne les dispositifs à mettre en place pour nous obliger à devenir sobre et efficace.
L'autre point sur lequel, Jean Gadret, je sais que vous aimez bien vous exprimer, c'est sur les défauts du capitalisme. Vous les avez d'ailleurs énumérés dans votre blog dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, c'est un peu long comme liste.
Il y en a neuf, c'est pas mal.
Je vais pas.
Il pourrait y en avoir d'autres encore. Je m'arrête à celui-là, le capitalisme frein puissant à la diffusion d'innovation, justement. La diffusion durabilité, on vient d'en dire un mot, parce qu'au fond, l'économie circulaire, c'est une innovation, c'est créatif. Vous dites que le capitalisme est plutôt un frein.
Alors, il y a un débat.
Ça peut être discuté, ça, bien entendu.
Il y a un débat, bien en entendu. Particulier, sur le rôle des brevets. c'est-à-dire de l'appropriation privée de connaissances. Et en réalité, ma position n'est pas qu'il faut interdire toute appropriation privée de connaissances et tout brevet, simplement que la démocratie doit décider de ce qui relève de bien commun de la connaissance mise au service de la collectivité et non appropriable à titre privé, parce que devant se diffuser dans l'ensemble du monde, je pense notamment aux génériques de médicaments vitaux, je pense au combat que mènent des multinationales contre les génériques de médicaments contre le sida produits en Inde, je pense à toute une série de phénomènes de ce type, je pense aussi à l'appropriation sous forme de brevets, de gènes, de plantes ou de semences, et sans parler des gènes humains. Donc, oui, en ce sens, le capitalisme est un frein à certaines diffusions de connaissances, de produits et de services d'une très grande utilité collective. Mais en réalité, pour moi, ce qui le rend le plus contestable, ou en tout cas ce qui me fait le plus douter de son avenir à très long terme dans le cadre d'une sortie de crise écologique, c'est le fait qu'il soit, entre guillemets, drogué à la croissance de la production et de la consommation. Il est d'ailleurs aujourd'hui en manque, il est très mal, voire agressif. Et d'ailleurs, c'est le jour pour évoquer les drogues ou le dopage, puisqu'on a appris que Lance Armstrong avait dit qu'on ne pouvait pas gagner le Tour de France sans se doper. Et d'ailleurs, on ne lui a pas posé la question, mais si personne ne se dope, il y aura bien quand même un vainqueur. Moi, je pense que le capitalisme est dans cette situation, compte tenu de la loi de la valeur pour l'actionnaire et de la concurrence assez sauvage qui existe entre les firmes. Il a besoin de croissance et de gains de productivité de façon permanente, de façon consubstantielle à ce qu'il est ou à ce qu'il est devenu. C'est peut-être là que nous pouvons avoir un débat. On sait bien qu'il dépense dans le monde 500 à 600 milliards par an en publicité, marketing et sponsoring, avec pour objectif d'injecter des drogues hallucinogènes, nous faisant prendre le futile pour l'utile et nous faisant confondre nos besoins réfléchis avec des impulsions d'achat. Donc, est-ce consubstantiel au capitalisme? Peut-être pas, dirait Alain, mais en tout cas, ça fait un bout de temps que ça dure.
Alain Grandjean.
Oui, deux points sur l'innovation. Évidemment que ce n'est pas les intérêts privés du dispositif privé de capital qui doit orienter l'ensemble du dispositif d'innovation mondial. Donc, on ne va pas débattre ici pendant 3h30 des enjeux relatifs à la privatisation des gènes dans les OGM, mais on comprend très bien que la diffusion, la communication et l'explicitation des supposés bénéfices des OGM, c'est très très lié, c'est pas indépendant du tout des enjeux de captation de rente des grands acteurs de ce secteur. De la même manière, on sait très bien que les entreprises de très grande taille, et c'est les producteurs de cigarettes qui ont mené le bal, sont très organisés pour créer du doute dans l'opinion. C'est d'ailleurs un point que j'aurais pu évoquer tout à l'heure quand vous avez dit pourquoi la prise de conscience est difficile. Parce qu'il y a des acteurs qui organisent des travaux, qui organisent la diffusion d'informations pour créer des doutes, des difficultés, et pour permettre qu'on reste drogué, puisqu'on ne voit pas les inconvénients de notre drogue, on comprend pas très bien d'où ils viennent. Donc j'ai parlé du tabac, mais malheureusement, il y a beaucoup d'autres cas de figure. Dans le cas du climat, on sait que les intérêts charbonniers pétro-gaziers ont contribué.
Très bien organisés.
Très bien. Alors cela étant, évidemment, la question c'est de savoir est-ce que c'est consubstantiel au capitalisme. Et est-ce que ça voudrait dire, pour revenir à la question de l'innovation, qu'on est incapable d'innover pour traverser la crise écologique? Ça, je suis sûr que non. C'est-à-dire, je suis tout à fait certain que même dans ce dispositif très imparfait, et même avant d'envisager des régulations qui me semblent absolument nécessaires, il y a beaucoup d'innovations qui se développent en ce moment. Il y a beaucoup d'innovations sociales. Il y a beaucoup d'innovations dans les territoires. Et donc, effectivement, un des grands enjeux du débat, je pense, c'est de recréer des espaces de liberté qui ne soient pas soumis à la loi de ces très grandes entreprises qui voient midi à leur porte.
Ni à une hiérarchie étatique.
Voilà.
Ni à une hiérarchie étatique. Il y a beaucoup d'alternatives. Mais vous avez parlé des biens communs. apparemment, enfin manifestement, les marchés sont inefficaces à gérer les biens communs. Vous diriez cela l'un et l'autre ?
Alors moi, je dirais d'abord la première chose, c'est que l'efficacité ou l'efficience des marchés, qu'ils soient financiers ou pas financiers, c'est un mythe. Petit 1. Donc je pense qu'il y a beaucoup de littérature économique aujourd'hui qui explique, qui démontre que la soi-disant efficience des marchés, c'est une idée reçue. Et donc, dit encore autrement, la science économique a un peu balbutié. Elle a fait des modèles ultra simples et dans des modélisations extrêmement simples, on arrive à avoir des résultats. Mais qu'on complique un peu les choses, on aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc moi, je ne crois pas un instant que les marchés soient magique, parfait et efficace dans aucune sorte d'acceptation du terme, d'acception du terme, pardon, excusez-moi. En revanche, ils ont des intérêts, et notamment un intérêt majeur qui est l'autonomie d'entreprendre et la liberté économique. C'est-à-dire que le gros intérêt de ce qu'on appelle un marché, c'est que chacun d'entre nous n'est pas soumis à une autorité politique pour manger et pour se chauffer. Oui. Mais c'est pas parce qu'il y a cet intérêt-là qu'il faut en faire le deus ex machina de l'organisation économique.
Alors en effet, sur cette question des biens communs et de ce qu'on appelle les marchés, peut-être deux choses. D'abord, les marchés, c'est un peu tout. Ça peut être d'un côté les marchés financiers, les produits titrisés, etc. Mais ça peut être aussi le petit marché local, celui des AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, ou celui des coopératives de proximité. Et ces marchés-là sont faits de règles qui n'ont rien de commun, si je puis dire. La deuxième chose, c'est que quand on revient à la définition, alors là peut-être un peu plus conceptuelle, des biens communs, ce sont des biens qui correspondent certes à une idée d'intérêt général, d'utilité collective, mais ce sont aussi des biens qui ont pour particularité, dans toutes les expériences ou l'histoire de cette notion, qu'ils sont gérés en commun. Le commun renvoie à la fois à l'intérêt commun et à une forme de gestion en commun par une collectivité qui n'est pas centralisée. Ça n'est ni l'État ni le marché. Et de ce point de vue, autrement dit, aussi, de la même façon que la notion bien connue des économistes de bien public renvoie à pouvoir public, la notion de bien commun renvoie plutôt à pouvoir commun, mettre ensemble, coopérer pour obtenir. Si je prends l'exemple d'un bien commun qui est une bonne qualité de l'air en ville, il est tout à fait évident qu'aucune entreprise isolément ou qu'aucune puissance publique isolément ne pourra assurer ce bien commun qui est la qualité de l'air
et en ville.
Qu'aucun pays isolément.
Oui.
Voilà. Mais s'agissant de la pollution urbaine, en revanche, il faut mettre autour d'une table et faire agir ensemble et coopérer des acteurs innombrables, mais c'est possible, ça se fait à certains endroits. Et on tient là l'essence de ce que sont les biens communs.
Juste c'est en train de se faire, Alain Grandjean.
Un mot, il me semble que le développement du système capitaliste dans les trois siècles derniers s'est fait avec simultanément au développement de l'individualisation et de l'égocentrisme. Donc c'est très compliqué de faire la part entre ce qui est l'organisation économique et la part qui est proprement anthropologique. Il y a un truc avec lequel je suis totalement d'accord avec Jean, c'est que on a désappris la coopération, qu'à l'évidence le capitalisme est individualisant, mais en même temps il est né au moment de l'époque des Lumières, où on sortait de carcans collectifs et où on a découvert le grand plaisir de la transgression par rapport à toute règle commune. Donc on est aujourd'hui, à mon avis, dans une transition qui est autant économique qu'anthropologique, où il va falloir réapprendre à toute vitesse à coopérer. Et je termine ce point là où je suis totalement d'accord avec Jean, c'est à coopérer à la fois sur des enjeux et des biens communs qui sont plus ce qui d'antan, hein, le bien commun qui est la capacité de l'atmosphère à ne pas être trop riche en CO2, c'est très très complexe. Et évidemment que ces organisations, ces coopérations ne se feront pas d'une manière extrêmement simple en disant c'est l'État qui est le responsable du bien commun et ces entreprises qui font le reste. Ça sera beaucoup plus compliqué que ça.
Plus loin, Jean Gadret, vous parlez de planifier carrément. Vous dites que le capitalisme est contre, bien sûr, la planification nationale ou mondiale, mais il va bien falloir en passer par là, planifier de plus en plus pour s'en sortir, notamment l'accès aux ressources vitales, par exemple.
Alors, je précise.
Ça, c'est un mot qui fait peur.
Je précise, dans ce que vous avez lu à l'instant, il y avait des guillemets autour du terme.
Planifier est entre guillemets,
planifier,
je confirme.
Merci beaucoup.
Je confirme.
Parce que je sais que cela évoque une époque douloureuse, même si la planification française n'a pas a eu sa grandeur, mais en tout cas la planification à la soviétique fait peur, et donc je suis tout à fait prêt à changer de terme. En revanche, ce qui me semble essentiel, c'est que on puisse démocratiquement définir des priorités d'avenir et mettre au fond ce qui restera de toute façon de capitalisme au service de ces priorités. Et pour en revenir à ce que disait Alain, en effet, il y a eu une période d'individualisme peut-être plus ou moins fabriqué, en tout cas qui a marché d'une certaine façon, mais en même temps, ce à quoi on assiste depuis au moins une dizaine d'années et plus encore depuis la crise, c'est à ce que la journaliste Bénédicte Magnier appelle dans son livre « Des millions de révolutions tranquilles », c'est-à-dire à l'émergence d'initiatives partout, localement principalement, mais aussi au sein de forums sociaux mondiaux, etc., qui sont un peu des grands-messes, de millions d'initiatives dans tous les domaines, de la finance solidaire à l'agriculture solidaire, à l'artisanat solidaire, aux entreprises d'insertion, qui rejoignent en partie ce qu'est aujourd'hui l'économie sociale et solidaire, qui se développe. On est passé en 10 ans de 10 à 11% de l'emploi total en France à près de 14% aujourd'hui, même si ces emplois sont de qualités diverses et s'il y a des freins et des difficultés. Donc, je suis, alors là, sous cet angle, assez optimiste sur la capacité de la société
civile vers la transition, là,
à reprendre la main. Et d'ailleurs, si Alain Grandjean milite au sein d'une ONG, c'est sans doute parce qu'il pense que c'est du côté de la société civile organisée que se trouvent les principaux moteurs d'une transition écologique et sociale, mais je ne veux pas le dire à sa place.
Ces solutions alternatives qui font encore quand même sourire dans le monde capitaliste, le monde de l'entreprise, Alain Grandjean.
Pas tant que ça.
Pas tant que ça, parce que c'est vrai que ce livre fourmille d'initiatives extraordinaires.
Les énergies renouvelables étaient considérées comme pas très sérieuses il y a 10 ans, parce qu'elles ne représentaient rien, à part l'hydraulique et le bois au niveau du mix énergétique mondial. Aujourd'hui, elles commencent à jouer dans la cour des grands. L'économie circulaire dont Dominique Bourg parlait il y a 10 ans, c'était considéré comme un truc d'intellectuel et d'universitaire, ça commence à rentrer dans les business models des entreprises. Donc tout ceci ne fait rire personne, parce que je pense que, enfin, sauf ceux qui n'ont pas envie de voir ou ceux qui ont envie de rire. Ça commence à exister. Je voulais dire un mot sur la planification, parce que ça me paraît vraiment très important. J'ai accepté de participer à un grand débat sur la transition énergétique nationale, et c'est parce que je suis intéressé par l'idée suivante. Il me semble qu'il va falloir inventer des dispositifs un peu tout petit peu plus intelligent et complexe que ceux sur lesquels on a eu l'habitude de raisonner, où effectivement le moyen long terme s'organise pas avec un marché. Il ne peut pas se planifier dans le détail, parce qu'on a toujours été dans un monde incertain, mais on est dans un monde de plus en plus incertain. Donc c'est un peu grotesque de croire qu'un planificateur omnipotent serait capable de nous dire ce qu'il faut faire pendant un temps. Et en plus, ce serait antidémocratique au possible. Donc je crois qu'il va falloir trouver des mécanismes dans lesquels on est capable de penser le moyen long terme et de trouver des lignes de direction à l'intérieur desquelles les acteurs s'organisent
pour innover.
Pour innover. Donc l'enjeu de ça, c'est comment faire en sorte que notre système ne tue pas l'avenir, c'est ce qu'il est en train de faire, ouvre des espaces sans fermer les capacités d'innovation que l'on constate tous les uns et les autres.
Alors, ce sera ma dernière question. Est-ce que ce que vous appelez de vos voeux va s'appeler un capitalisme régulé, ou est-ce qu'on va être sur un autre modèle? Je lis là encore une fois le blog de Jean Gadret. Vous voyez que je l'ai lu avec attention. Je ne suis pas seule, hein, beaucoup de monde. J'ai vu que vous sollicitez beaucoup de réponses et beaucoup de passion. Vous dites, par rapport à vos neuf caractéristiques du capitalisme, on ne les a pas toutes énumérées, il me semble que ceux de mes amis qui pensent qu'un capitalisme régulé pourrait faire l'affaire devraient tenter soit de répondre aux questions qui précèdent, je répète que vous en posez neuf, soit de m'expliquer en quoi elles sont mal posées.
Mais oui, alors, je suis peut-être devenu moins exigeant aujourd'hui, parce que d'abord, je n'ai pas eu de réponse. Et puis, parce qu'au fond, si je résume mon hypothèse actuelle, parce que là, on en est au stade de conjecture, bien entendu, c'est la même que celle d'Edgar Morin qui dit « On ne va pas le remplacer, le capitalisme, par un coup de baguette magique, mais on peut refouler sa zone de domination absolue. » Et moi, il me semble qu'on peut rêver, parce que là, on est un peu dans l'utopie, d'un capitalisme qui ne serait plus que l'un des piliers non dominants, régulés et contrôlables, à côté d'autres piliers publics, coopératifs, associatifs, indépendants et libéraux, des tissus locaux de PME, de petites entreprises, de paysans associés, le tout financé par des banques socialisées. Et alors, dans une telle économie plurielle avec capitalisme, serait-on encore dans des économies capitalistes ?
Voilà, mais le terme régulé et contrôlable accolé au capitalisme, Alain Grandjean,
c'est une question de vitesse. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure.
Mais je ne dis pas que c'est pour demain, ça.
Voilà, non, mais c'est pour ça que j'y reviens. Je pense qu'à très court...
Mais il y a urgence.
Justement, c'est ça que je veux dire. C'est qu'à très court terme, je pense qu'on n'a pas le choix des termes et que l'enjeu central, c'est la régulation de la finance et d'un certain nombre de dispositifs du système actuel. Petit 1.
Je suis parfaitement d'accord.
Et petit 2, il me semble qu'on a besoin de rêver sur des temps plus longs. On a besoin de rêver d'un autre modèle. Parce que nos jeunes, moi j'ai des enfants qui démarrent dans la vie, je vois bien qu'ils souffrent de ce monde-là, et donc je pense qu'on a besoin de rêves. Donc il y a quelque chose d'important, me semble-t-il, qui se joue aujourd'hui. On a vu la chute de l'Empire soviétique, on a vu la domination du capitalisme libéral, on n'a pas de modèles qui font rêver. Je crois que c'est ça vraiment dont on a besoin aujourd'hui, indépendamment du fait qu'à court terme, de toute façon, il faut boutiquer.
De modèles qui font rêver ou de penseurs pour porter ces modèles et pour nous inspirer, c'est aussi ce que Florent Augagneur, qui participe à nos émissions, aime bien répéter. Et c'est peut-être là-dessus qu'on va terminer. Il y a quand même des grandes qualités au capitalisme. Vous ne les contestez pas, Jean Gadret. On a parlé d'innovation. C'est bien, ça peut être capitaliste.
L'innovation,
l'esprit d'entreprise,
l'efficacité d'entreprise, l'entrepreneuriat. Il est tout à fait possible de disposer de ces qualités avec d'autres finalités. Et elles sont bel et bien présentes dans toute une série d'entreprises de l'économie sociale et solidaire.
On a besoin, à court terme, de régler toute une série de problèmes provoqués par des systèmes très lourds. Nos énergies, nos centrales à charbon qui sont extrêmement polluantes, tous nos dispositifs industriels qui sont extrêmement lourds, notre agriculture qui est hyper intensive, le règlement des conséquences de ces problèmes-là se fera pas la petite cuillère. Donc à court terme, il faut quand même s'en occuper.
Et là, on a parlé de manière très globale, peut-être une toute dernière question pour l'un et l'autre. Est-ce que quand même, on ne peut pas faire de très grandes différences entre régions du monde à ce sujet ? Nous sommes restés sur des notions, nous avons parlé de la Chine, régime très particulier bien entendu. On ne peut pas séparer, quand même, dans tout ce que vous dites, les régions du monde.
Si, bien entendu. Le type de réflexion que nous avons menée là s'appliquait peut-être à titre principal aux pays
au monde occidental, semble-t-il.
Développés. En même temps, les grands enjeux globaux pour lesquels Alain Grandjean se bat concernent l'ensemble des pays du monde. S'agissant en tout cas de la Chine et de l'Inde, moi, je vais faire un pari à haut risque, là, maintenant, c'est que la fin de leur croissance est proche et que plus généralement, la fin de la croissance mondiale est proche et qu'il faut, parmi les rêves qu'évoquait Alain Grandjean, penser à des trajectoires post-croissance désirables.
Vers un équilibre aussi, peut-être meilleur entre pays développés et en développement.
Ça, c'est tout à fait clair. D'ailleurs, on n'aura pas le choix. Parce que la puissance démographique et la puissance tout court n'est plus du tout du côté de l'Ouest. Le monde est fini pour tout le monde. Les besoins d'articulation des décisions entre les échelons locaux, grandes régions, États, se posent conceptuellement de la même manière dans tous les grands pays du monde. Donc les problématiques qu'on a évoquées aujourd'hui me semblent extrêmement communes. Les enjeux qui différencient terriblement les modèles, c'est les cultures qui sont très très différentes, c'est les visions du temps, le rapport au temps. Et donc bien sûr que la déclinaison concrète et opérationnelle de ces distinctions ne se fait pas du tout de la même manière selon les grands pays. Là où il va y avoir quelque chose dont on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui et qui va se placer de manière très très commune entre les grandes régions du monde, c'est toute la question du libre-échangisme et des échanges multilatéraux. Là, c'est de toute façon symétrique. Eh bien, on ne peut pas être ouvert d'un côté et fermé de l'autre. Donc c'est des sujets dont il va falloir parler au niveau...
Et ça va venir très vite parce que là, nous avons... selon moi, à nous opposer très vivement un accord de destruction écologique massive qui s'appelle le partenariat transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis.
C'est en effet une affaire à suivre. Nous ne sommes pas surpris de vous voir conclure là-dessus, Jean Gadret. Merci à tous les deux.
C'était Révolution écologique, notre troisième volet aujourd'hui, écologie et capitalisme. Et en sous-titre, l'avenir ne nous rendra pas le passé. Une belle phrase d'André Gors. Émission proposée par Dominique Rousset avec la Fondation Nicolas Hulot, le concours précieux de Florent Augagneur, conseiller scientifique et stratégique de la Fondation, et celui de Cécile Caillé. Samedi prochain, rendez-vous à 14h pour notre quatrième volet. Il s'agira d'écologie et justice sociale. Équipe de réalisation, Ghislaine David, assistée de Philippe Marcher, Bernard Laniel, Romain Lenoir pour la préparation et la documentation. Laurence Genepin, merci à eux tous. Rendez-vous sur notre site où vous retrouverez les références de tous les ouvrages et auteurs que nous avons cités. Et vos commentaires sont bien sûr les bienvenus. À suivre tout de suite après Ville Monde. My mom puts a wahas bab, si my kiwan uywawan. Si wai, si, si wai, hermosa chayanteita. Si wai, si, si wai, hermosa chayanteita. Kawari alto cielo, estrellas caes de tus ex. Kawari alto cielo, estrellas caes de tus ex. A pagna chutu kutu, no capaz de sin nasesia. A pagna chutu kutu, no capaz de sin nasesia. Si guay, si, si guay, hermosa chayanteita. Si guay, si, si guay, hermosa chayanteita.
Si guay, hermosa chayanteita.